Bien le bonsoir tout le monde, nous y sommes enfin, début de la finale de la Coupe Stanley, ce soir, en direct de Las Vegas. Il en sera bien sûr question pendant l'émission ce soir, pas seulement ça, David Lemieux avec nous qui va venir nous dire qu'il prend un peu le blâme pour le fait de ne pas avoir fait le poids à 160 et que sa carrière va continuer de se dérouler à 160 dans le futur, à ne pas manquer aux environs de 19h30. Il sera question de soccer, encore une autre défaite pour l'Impact de Montréal. Ça va finir comment cette histoire-là? Formule 1 avec Jacques Villeneuve, victoire d'une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec au tournoi de la Coupe Memorial. On s'en réjouit parce qu'il y a un peu beaucoup de nous autres là-dedans. Stéphane Leroux sera là. Mais d'entrée de jeu, accueillons M. Mario Tremblay. M. Tremblay, bonsoir.
Bonsoir, mon petit Mario. Ça va bien?
Ça va très bien, merci. Et M. Danny Dubé. M. Dubé, bonsoir.
Tu m'appelles monsieur.
Monsieur.
Moi, est-ce qu'il faut que je t'appelle mon petit?
Ah oui, donc, me faire appeler deux fois mon petit en si peu de temps, je vais vous croire.
Mon petit Mario. Ah,
un autre petit coup, je vais peut-être vous croire, les gars, tu sais, mais les gars, alors, à quel genre de finale vous attendez-vous? Et le premier match aussi, c'est intriguant. À quel genre de premier match tu t'attends, Mario?
Ben écoute, je m'attends là de ce qu'on a vu depuis le début des séries de la part des deux équipes. Je pense à Washington, je pense à Vegas. La raison pour laquelle Washington a battu Tampa Bay, ben premièrement, on sait que leur gros canon ont produit en attaque, mais ça a été également aussi leur système de jeu. Ils ont fermé la zone neutre complètement au Lightning de Tampa Bay, ce qui a été très ardu pour Tampa. Et du côté de Vegas, ben ils jouent de cette façon-là depuis le début des séries éliminatoires. Et je regarde justement l'affiche de Vegas, des Golden de Vegas à domicile. Ils sont 6-1 depuis le début des séries. Par contre, mon cher Danny, Washington à l'étranger ont 8 victoires et 2 défaites. Et ouais. Alors, on peut dire que Washington est très à l'aise à l'étranger. Alors, ça va être une série qui va être longue, je pense, et qui va être très, 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 très serrée.
Et c'est pour ça que le premier match est intriguant, Danny, n'est-ce pas? Parce que Vegas en a perdu un premier match d'une série, mais sur la route. Ouais. Est-ce qu'il pourrait perdre un premier match ce soir en partant contre Washington?
Ouais. Ben, je pense que leur chance, c'est le premier match. Parce que Vegas n'a pas joué autant de hockey que
Washington.
Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une équipe qui est reposée, là. Des fois, reposer, ça veut dire rouiller aussi un peu.
Ouais, aussi, ouais.
Donc, au début, là, avant de reprendre ton rythme, moi, je pense que Barry Trotz est très conscient qu'il affronte une équipe qui va leur donner du fil à retordre. Pourquoi? Parce que c'est deux équipes qui sont capables d'étouffer l'adversaire, de jouer un style de jeu, comme Mario le disait, on ferme la zone neutre, puis là, ça vient plate jouer contre nous autres parce qu'on est capable de fermer le jeu. Moi, je regarde il y a quand même des chiffres intéressants au niveau du différentiel à 5 contre 5. Et quand même, là, ils ont joué juste 15 matchs depuis le début des séries, les Golden Knights, et ils sont plus 16 à 5 contre 5. C'est pas rien, là.
Ouais, c'est très révélateur. Et leur trio numéro 1 est le deuxième de la Ligue dans la saison régulière à 5 contre 5.
Exact. Et moi, je pense que Kuznetsov et Ovechkin, c'est dans une classe à part. Là, jusqu'à maintenant, ils ont été extraordinaires. Puis c'est la raison pour laquelle ils sont là. Mais moi, je donne un avantage à Vegas à cause de leur fiche à domicile comparé à leur fiche à sur la route. C'est similaire. C'est au 6-1, 6-2. Écoute, ta minute, là. Moi, je pense que Washington, ce qui va les rattraper, c'est leur difficulté d'avoir du succès à la maison.
Et du succès à la maison. Et on va voir comment ils vont réussir à entreprendre la série. Parce que est-ce que t'en fais une prédiction, donc, Danny, Vegas qui va gagner la finale?
Oui, puis je pense pas que ça va aller en 7. Okay. Je pense que ça va être plutôt court.
Mario, toi, ta prédiction officielle?
Ben moi, là, mon équipe était les Jets de Winnipeg pour gagner la Coupe Stanley. Donc, vu que Vegas a battu Winnipeg, je ne peux pas aller autrement qu'avec Vegas. Moi, je suis un peu comme Danny. Moi, je pense que ça va aller. J'ai choisi Vegas en 6. Et tantôt, Danny mentionnait justement que on regarde un peu là Vegas versus Washington. Vegas, les gars, là, ils ont eu 20 jours de repos depuis le début des séries éliminatoires. Mm-hmm. Washington en a eu 9. Alors, si vous me demandez lequel que je préfère, oui, j'aime mieux avoir eu 20 jours de congé qu'en avoir eu 9. Parce que ça va, il y a encore des bobos. On regarde le joueur de centre de Washington qui est encore blessé à une main. Puis ça ne sera pas
tu
une sinecure.
Backstrom?
Backstrom, exactement, ouais. Danny, merci. Okay. Alors, je pense que, regarde, de ce côté-là, puis les joueurs de Vegas, ils le savent très bien qu'il est blessé. Et vous le savez, dans les séries éliminatoires, quand on sait où un joueur est blessé, ben, il risque d'y avoir des petits coups de bâton sur la main.
Ben non, voyons donc.
Je pense, Danny.
Mario, là, pourquoi tu parles d'un hockey d'une autre époque, là, voyons donc.
Hey, arrêtez, vous autres.
Les gars, qui a le
meilleur?
Il n'y
avait pas de réseaux sociaux dans ton temps. Mario, les Twitter, pis ça n'existait pas.
Non, heureusement.
Qui a le meilleur gardien de but? En tout cas, les deux ont fait le travail pour arriver jusque-là avec leurs équipes. Marc-André Fleury, Braden Oldby, messieurs.
Moi, mon choix, c'est Marc-André Fleury. Le petit gars de Sorel, depuis le début des séries, il est l'une des raisons principales pour laquelle Vegas est en finale de la Coupe Stanley. Ça va être lui, je pense, que même si jamais Vegas ne gagne pas la Coupe Stanley, je pense qu'il y a de bonnes chances d'être élu le meilleur joueur des séries éliminatoires. Je n'ai rien contre Oldby. C'est grâce à lui dans les matchs 6 et dans les matchs 7 qui, oui, s'est vraiment levé debout pour aider son équipe à vaincre Tampa Bay. Mais c'est pas rien. Si tu me donnes le choix, moi, je vois avec André Fleury. Il a le vent dans les voiles. Il s'amuse comme larron en foire. Puis je ne verrais pas pourquoi Marc-André Fleury irait s'écraser en finale de la Coupe Stanley. Je m'excuse.
Moi, je trouve que Oldby a pas été un facteur dans les matchs, contrairement à ce que Mario dit dans les matchs 6 et 7. Je trouve vraiment que c'est son équipe qui a été très bonne. J'y regardais souvent derrière lui. Je l'ai pas senti en contrôle. Contrairement à Marc-André, dans les matchs plus serrés où j'ai vraiment senti que c'était l'inspiration de son équipe, que c'était lui la colonne vertébrale de cette formation-là. C'est un danger, là, si on réussit à le casser d'entrée de jeu, peut-être que tout ce qu'on a dit, ça ne voudra plus rien dire. Mais moi, je pense aussi que Marc-André Fleury, le fait qu'il ait gagné, le fait qu'il ait du bagage, le fait qu'il ait aussi un succès contre Oldby, parce qu'Oldby, là, c'est pingouins contre, rappelons-nous de ça, là, c'est les pingouins contre les Capitals de Washington. Donc, dans la tête des deux athlètes, là, il y a quand même un bagage. Donc, il y a de l'histoire, et l'histoire favorise Marc-André, qui a 2.5 de moyenne de but alloué, qui a 915 d'efficacité contre les Capitals de Washington. Mais dans le cas d'Oldby, lui, il sait pas à quoi s'attendre parce que c'est comme une espèce d'aventure, là, tu sais. Donc, il y a quelque chose, mais quand on regarde les matchs, Oldby contre les Penguins de Pittsburgh, c'était 2.9, c'était 910 de pourcentage d'efficacité. Donc, c'est presque .30 en dessous de ce qu'il y a comme pourcentage d'efficacité en série. Donc, il est presque à 940, là, Oldby, en carrière, 934. Puis là, contre Fleury, c'est beaucoup moins probant. Donc, là, il y a quelque chose, je pense, qui milite en faveur des Golden Knights. Puis l'autre affaire, c'est la foule, c'est la magie, c'est tout ce qui s'est passé depuis le début. Écoute, c'est un rouleau compresseur. Je lisais les différents articles que la Presse Plus a produit à propos de la 25e Coupe Stanley du Canadien, de la 24e, pardon, Coupe Stanley du Canadien de Montréal, tout ça. Et les joueurs qui parlent et qui disent, écoute, on savait qu'on avait quelque chose de notre côté. Allait de notre côté.
Des victoires en prolongation, puis tout ça.
Ça allait en notre faveur. Puis Mario, tu peux témoigner de ça. Tu en as vécu des Coupes Stanley, tu en as gagné. Ouais. T'es un gagnant de Coupes Stanley. Il y a personne qui peut t'enlever ça. Là, ça, il y a quelque chose de tellement précieux. Tu peux nous témoigner à quel point tu peux finir par te sentir invincible à certains moments, là.
Sans aucun doute. Puis je regarde tantôt, tu parlais de Marc-André Fleury. Je disais justement aujourd'hui, comme toi, Danny, Marc-André Fleury, lorsqu'il portait l'uniforme des Penguins de Pittsburgh, il a affronté Washington. Il les a battus deux fois en 2009 et en 2017. Il les a battus en 7 matchs. Alors, c'est sûr que pour Marc-André Fleury, du côté de sa confiance, ce bagage d'expérience-là, messieurs, ça, c'est dans sa poche d'en arrière. Lui, il le sait, Marc-André Fleury, qui a vaincu les Caps de Washington deux fois. Je répète, en 2009, 2017, en ses matchs. Alors, évidemment, puis quand...
Et il est plus solide cette année que dans ces années-là, j'ai l'impression. Ouais, mais continue, Mario, excuse.
Je suis d'accord avec toi. Puis pour répondre à Danny, c'est sûr que quand tu arrives dans les séries de finale de la Coupe Stanley, tu regardes ton équipe, puis t'es confiant. Mais pour revenir à ce qu'on disait tantôt, évidemment, le premier match va être très important. Puis si Vegas gagne le premier match... Oh, attention, ça va être pas mal difficile, je pense, pour Washington.
C'est incroyable, les gars, parce que là, je vais jouer l'avocat du diable, parce qu'on est les trois à penser que Vegas va l'emporter. Ça a pris du temps avant qu'il fasse l'unanimité. Il y en a encore... Même Daniel Brière, qui a prédit contre Vegas depuis le début des séries, a dit que Vegas allait gagner la finale. Bon. Fait qu'ils ont tous quelque chose qui nous ont convaincus. Maintenant, je vais faire l'avocat du diable pour Washington. Le jeu physique, les gars. Est-ce que le jeu physique de Washington, qui vont peut-être bourrasser, bousculer Fleury, comme aucun autre club l'a fait depuis le début des séries, pensez-vous qu'ils vont essayer d'ouvrir une porte par leur jeu physique, à la limite des fois, même un peu over the top, là, comme
ben, moi, je, Mario, je là, vais là, aller avec Mario, ce qu'il a dit tantôt, là, ils ont battu Winnipeg, là.
Mais Washington est-il plus vicieux que Winnipeg? Je pense que oui, mais je suis pas sûr.
Puis Danny, San Jose, moi je pensais que San Jose était pour battre Vegas parce que t'es gros, puis je pensais que Los Angeles était pour battre Vegas parce que t'es plus gros pis t'es plus fort.
Mais moi, j'essayais de vous ébranler. J'ai
passé le pinceau partout.
Ben oui.
Puis je vais te dire une chose, là, Mario. J'ai devant moi les statistiques par période, OK?
Ouais, oui.
Puis moi, je pense que ça, c'est important parce qu'on... je sais, des fois, les gens nous écoutent, disent, ah, ils vont dire encore le premier but. Puis,
Non, mais...
Regarde qui marque le premier but, quelle formation marque le premier but, les débuts de période, comment tu réussis à garder le momentum du match, à contrôler l'adversaire. Écoute, Vegas, là, du rattrapage, ils n'en ont pas fait souvent. Là.
Pas du hockey,
de rattrapage, eux autres, là...
Et ils ont répliqué tellement vite quand ils se sont retrouvés dans une situation, justement, de s'en faire marquer un.
C'est bien de le mentionner, c'est exactement ça. Alors, juste dans les 15 matchs qu'ils ont joués, ils sont plus 7 en première période.
Aïe, aïe. C'est beaucoup, là.
C'est énorme. En deuxième période, ils sont plus 6. Fait qu'eux, là, après ça, en troisième période, ils sont plus 2. Okay? Mm-hmm. Dans le fond, ce qu'ils font, en troisième période, ils contrôlent l'adversaire. Tandis que l'adversaire a donné quand même, en troisième période seulement, en 19 matchs, ont donné 10 buts en première, 20 buts en deuxième et... 15 buts en troisième période. Fait qu'il en donne des buts, là. Je veux dire, à un moment donné, là, tu peux pas jouer du hockey de cette façon-là en te disant, écoute, il n'y a pas de problème, nous, on est capable de marquer. Je suis un apôtre de l'offensive. Mais ça prend un équilibre. Je pense que entre les deux équipes, honnêtement, de ce que j'ai vu depuis le début, là, j'ai suivi plutôt l'Est, mais je trouve que Vegas a vraiment démontré énormément de stabilité et d'équilibre dans le marchandage entre la défense et l'attaque.
Ils sont beaux à voir jouer. T'allais-tu renchérir, Mario? J'ai l'impression.
Ben oui, j'allais mentionner ce que Danny disait tantôt. C'est que, tu sais, là, j'ai vu beaucoup de matchs de Vegas dans les séries éliminatoires. Et quand on parle, là, de hockey, 101, là, ben, c'est ça. Il n'y a pas d'espace dans aucune zone. Zone offensive, ils contrôlent. Zone neutre, on joue la trappe à outrance. Et défensivement, les 5 joueurs sont toujours actifs. Et c'est pour ça que les clubs qui ont battu, là, les meilleures équipes qui ont battu, surtout entre autres Winnipeg, l'une des meilleures attaques de la Ligue nationale, ben c'est ça, il y avait toujours un joueur de Vegas dans le visage. On parle souvent dans le monde du hockey de temps et d'espace. Il y en avait pas. Puis attendez-vous, parce que là, tout le monde le sait, là, Ovechkin, il a été un élément important contre Tampa Bay.
Il va être surveillé.
Ben, attachez vos tuques, là, s'il vous plaît, attachez vos tuques, là. Puis ils vont être physiques avec, puis ils vont surveiller ce que Tampa Bay n'a pas réussi à faire.
Non, Tampa Bay qui vraiment là, ça a été très décevant comparativement à ce qu'il pouvait présenter sur papier. Mais parlant de papier, les gars, levons la main droite et jurons-le. Si au début de l'année, je vous avais demandé, les gars, on va regarder là, la liste des joueurs de Vegas là, et qu'il faut absolument que Marc Bergevin aille chercher, et ça va changer l'avenir et le présent du Canadien de Montréal. Tu sais, il y a des gars là qui en ont produit des points à Vegas là, des Québécois même qu'on a regardé de haut ou de loin ou peu importe, à qui on se disait non, lui il va être dans une situation de contrat, on y signera jamais un 5, 6, 7 ans, 6, 7 par année. Est-ce qu'il y en a un que vous auriez mis votre tête sur le bio pour dire à votre DG là, sa feuille de Vegas avant l'année, dire hey, ce gars-là, il faut aller le chercher.
Ben moi honnêtement, écoute, je vais dire la vérité là, à 7 millions par année, je suis pas sûr que j'aurais été chercher grand joueur là. Honnêtement, là. Je vais être franc avec vous autres. Le seul peut-être.
Je fais allusion à Marchessault, Mario, quand je parle du contrat, là.
OK, ben moi aussi.
Je dis pas que tous les gars auraient écouté ça. Je dis que lui, le prendre, ça signifiait qu'il arrivait sur une fin de contrat, que tu devais te poser la question si tu le prenais, dire je suis prêt à lui donner un contrat. Comme Patcherity, une équipe qui le prend là, disait il faut qu'elle se pose la question, je suis prêt à lui donner un contrat après l'année qui s'en vient, tu me suis?
Ben poser la question, c'est la même chose avec Kane, avec San Jose.
Oui, même affaire.
On donne un contrat de 7 ans à 49 millions. Si tu posais la question à 10 gars d'hockey là ce soir autour du micro, je suis pas sûr qu'il y en aurait peut-être 2 sur 10 qui auraient dit oui, on lui aurait donné un contrat de 7 ans. Alors, regarde, ta question est très pertinente. Ma réponse à moi, c'est non.
Danny, toi?
Ben écoute, il y a pas beaucoup de joueurs que bon Marchessault, moi pour moi c'est un coup de cœur là. Moi j'ai toujours cru oui. en ce gars-là. Maintenant, combien ça coûte puis tout ça là, on n'est pas là-dedans là.
Mais ça faisait partie des réflexions parce qu'il était disponible Jonathan Marchessault là. Il aurait pu aboutir à Montréal.
Moi le gars qui pour moi c'est comme un incontournable, c'est chez Théodore.
Ouais, le défenseur d'Anaheim.
Ouais. Moi, lui, là, quand j'ai su, je me suis dit, waouh, et lui, là, si le Canadien peut parler, surtout quand il s'est retrouvé dans les rangs mineurs, tu sais, bon, OK, oui, il y avait toute la dimension contractuelle, la gymnastique, tout ça, mais je me disais, le Canadien peut pas essayer d'aller chercher ce gars-là pendant qu'il est dans la Ligue américaine. Il peut jouer dans la Ligue nationale, là.
Donc, t'es pas surpris qu'il joue aussi bien en ce moment dans l'uniforme des Golden Knights. On est avec Mario et Danny. On s'arrête le temps de quelques messages et on revient pour la suite, évidemment. Avec Danny Dubé et Mario Tremblay. Mario, comme ancien joueur et ancien coach, je sais pas si t'aimais ça, les shows d'avant-match. Et comme spectateur, je sais pas si t'aimes ça, le show d'avant-match à Vegas.
Hey, regarde, écoute, c'est capotant, là. J'ai rarement vu, là, au cours de ma carrière de hockey, de joueur, d'entraîneur adjoint, des shows semblables. Et c'est ça, Vegas. Puis dans le fond, on regarde ça là pour faire plaisir aux partisans. Écoute, c'est phénoménal ce que cette équipe-là peut accomplir comme spectacle d'avant-match. Puis je peux dire une affaire, j'espère que Jeff Monson voit ça, puis toute l'équipe d'Evenco qui voit ça aussi, vont juste être capables d'arrêter l'orgue là, qu'on entend au Centre Bell, puis manger des saucisses chaudes, là. Avec mademoiselle, je ne sais plus de son nom, mademoiselle...
Madame Bibeau.
Qui est très bonne en passant, mais je pense qu'on est dû passer à d'autres choses. C'est juste mon commentaire.
C'est intéressant ce que tu amènes, parce que le Canadien a été quand même un précurseur en termes de cérémonie. J'en parlais plutôt avec Paula d'enflammer le Centre Bell de façon virtuelle avec les séries, les cérémonies du centenaire, fermeture du forum. Mais toi, Danny, aimes-tu ça aussi? Puis aimerais-tu ça piloter une équipe dans une ambiance comme celle-là?
Sûr que, tu sais, le fait d'avoir... de la magie dans le building. Il y a personne qui... Écoute, tout le monde veut ça. Les joueurs le veulent. Les joueurs jouent pour qui, là? Ils jouent pour le public. Écoute, tu vois, ce qui fait carburer les joueurs, c'est bien sûr, bon, tout ton environnement, tes pairs avec qui tu joues, tes chums, tes coéquipiers, c'est le plus puissant.
Penses-tu que toutes les équipes savent pour qui ils jouent, Danny? Excuse-moi, je te coupe, mais t'es venu me chercher avec ça. Parce que moi, ça me trotte dans la tête, tu fais un bout. Puis je vous la pose. Penses-tu que tous les clubs savent pour qui et pourquoi ils jouent?
C'est les joueurs. C'est individuellement. T'as des joueurs qui sont vraiment généreux, qui jouent pour le public.
Parce que les autres, ils savent pour qui ils jouent.
Comme des artistes chantent pour le public, puis il y en a d'autres qui, dans le fond, ils chantent pour d'autres choses.
Mais c'est un sport collectif.
Non, mais c'est vrai. Pour chaque personne, c'est différent. Après, la configuration, comment l'équipe est bâtie, l'identité, l'organisation, comment tu véhicules tes choses, tes valeurs, tes principes, c'est ça qui fait que ça devient fort, puis que ça passe à autre chose, puis que les gens se rangent derrière le logo, derrière ce que tu représentes comme organisation. C'est tout ça, là. Mais ça vient des gens forts. Ça vient de ceux qui sont à la tête de ton organisation. Les joueurs clés, c'est eux autres qui envoient le message. Tu sais, mettons, là, je vous donne un exemple. Admettons que c'est pas Marc-André Fleury, puis c'est Ben Bishop.
Oui.
Je t'annonce qu'on n'est pas là, là.
C'est pas pareil.
On parle pas de la même affaire.
C'est sûr, c'est pas pareil.
Parce que c'est juste le type de personnalité.
Oh oui, comment il rayonne différemment, c'est sûr.
Écoute, c'est ça. Alors, comme organisation, c'est tellement important qui tu choisis pour être ton ambassadeur, mais pour porter ton message. Il faut qu'il y adhère au message.
Puis ils ne se sont pas trompés hein, quand tu regardes ça au niveau de la sélection-évaluation. Mario, c'est impressionnant quand tu regardes l'équipe que McPhee a montée à Washington. Qui a monté à Vegas,
Les gars, vous savez, là, tantôt, je parlais du Canadien là, avec Mme Bibeau, là, avec son orgue. Là, c'est sûr qu'à Montréal, on a vu de belles choses aussi. Puis comme Danny disait tantôt, le Canadien a déjà été top-notch là-dessus. Mais depuis quelques années, ils en ont perdu. Et que c'est ça que je vous dis. C'est ça qui est le problème.
Il y a des hommes d'hockey qui ont décidé que les flafla de cérémonie, ils n'aiment pas ça.
C'est pas ça, compliqué, c'est leur choix,
parce que les gars de marketing diront jamais non, on fera pas de présentation, on mettra pas d'artifice, c'est sûr.
Comme on a dit tantôt, quand moi je paye 300 $ pour un billet d'hockey, je veux en avoir pour mon argent. sais, je paye de la bière 11$, 12$, mais s'il vous plaît, donnez-moi mon argent. C'est pas compliqué. Ce que Vegas, eux, comprennent. Je comprends, là, de se répéter, c'est pas toujours évident, mais quand t'engages des personnes à gros prix, c'est leur travail de faire ces choses-là. Fait que, m'excuse, mais c'est
mais,
ça.
Mais aussi, il y a les résultats. Tu sais, tu peux pas.
Ben oui, tu peux pas inventer ça, là.
Tu peux pas inventer de la magie quand le magicien est pas là, là.
Et on a c'est vu ça sûr, à Montréal.
T'as
quand
le chapeau avec le lapin sur le petit banc, mais tu cherches le magicien, il est pas là. T'as pas de magicien, il y a pas de magie, là.
Alors, je sais, mais regarde, on regarde ce qui se passe au Centre Bell, là, sur l'écran géant, là. Ce qu'ils ont fait avec
match
les
d'ouverture.
Joueurs,
t'as juste allé au match d'ouverture,
Match d'ouverture,
tu n'as pas perdu une, là. Puis, c'est rendu plate en tabarouette, ce match d'ouverture, là.
Puis, ce qu'ils font durant l'hiver, c'est-tu plate, man? Écoute, on fait un match d'ouverture.
Mais en même temps, moi, je veux dire, je vous rejoins à 100%, les gars. Moi, je suis d'accord que dans le building, ça a baissé d'une coche. Mais je veux dire ceci. Si tu veux que ça devienne, que ça monte d'une coche, il faut vraiment que tu trouves ton identité. Puis moi, je reviens, je suis convaincu, c'est quoi un Canadien de Montréal? Mario, là, je parle à Mario Langlois, mais je te parle à toi aussi, Mario. Parle aux deux, Mario.
Ça vient maintenant. Mais ils ne devraient jamais l'avoir perdu, leur identité, Danny.
On a souvent dit ça, tous les deux, on s'est posé cette question-là en rond. Qu'est-ce que c'est un Canadien? À un moment donné, là, le joueur qui enfile le chandail, il faut pas qu'il se pose la question en mettant le chandail, qui suis-je, là? Il sait qu'est-ce que ça représente, c'est quoi les valeurs, comment ça marche. Et ça, après ça, ça rayonne. Ça rayonne dans le gradin, ça rayonne dans la présentation d'avant-match, durant le match, dans tout ça. Si tu perds ça de vue, mais là, je m'excuse d'utiliser ma vieille expression, mais celle-là, c'est la queue qui brosse le chien.
Ben je pense que la queue a brossé le chien pas mal ces dernières années, Danny, en conclusion. Danny, je te donne Mario, je te donne le mot de la fin.
Attends, en conclusion, moi, je veux juste dire, avant de laisser la parole à Mario, Carlson, Ola, Aiken, c'est plus 53, plus 29, plus 10 sur l'année précédente. Il y a de la magie, mais en arrière du banc aussi, il y a eu un peu de magie.
Ben, moi, terminant, ce que je veux vous dire pour le Canadien de Montréal, les joueurs qu'on aimait dans Montréal, c'est de ramener de la fierté ce qu'ils ont perdu. Puis c'est pour ça que les partisans, en quelque sorte, s'éloignent de leur équipe, parce qu'ils ont perdu ce feeling-là, puis il faut que ça revienne au barquet assez vite, merci, et dès l'an prochain, mes amis.
Tu peux pas bâtir une colonne d'équipe avec des pas de colonne.
Arrêtez de pleurer, gang de bébés lala.
C'est ça. Fait que retrouvez votre colonne ou changez de ville pour qu'on bâtisse c'est une tout. Colonne qui se tient debout.
Ceux qui sont pas contents, on les met dehors. Bye-bye.
Et voilà.
C'est le mot de la fin.
Danny, tu trouves qu'on a retrouvé notre identité? Ouais,
ben, pas mal.
Salut. Salut, Mère. Salut, Danny. Bye. On vient avec Philippe Quentin, Benoît Brunet, David Lemieux qui nous dit que c'est un 160 et rien d'autre.